France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'essentiel de cette édition sera encore très largement consacré à la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran et le Liban. Nous serons à Jérusalem dès le début du journal. On entendra par ailleurs un témoignage rare venu de Téhéran. Avec notre invité, on parlera des chances de mettre en place ou non une démocratie laïque en Iran. Nous serons également aux États-Unis où l'opinion américaine reste très partagée sur cette guerre. Et puis dans le reste de l'actualité, on s'intéressera au nouveau plan stratégique du groupe Renault. Enfin, on constatera combien le milieu du jazz en France n'est pas épargné par les violences sexistes et sexuelles. Voilà plus de 10 jours déjà qu'ont commencé les bombardements américains et israéliens contre l'Iran, et à l'évidence, la République islamique ne s'est toujours pas effondrée, bien au contraire, puisque dans un geste de défi, un nouveau guide suprême a été désigné, pas n'importe lequel, le fils de l'ancienne ayatollah assassiné, soit le signe d'un jusqu'au boutisme du régime théocratique, voire d'un renforcement de la mainmise du pouvoir iranien sur le pays. Et c'est donc dans ces conditions, tandis que les bombardements et les tirs de missiles continuent par ailleurs dans tout le Moyen-Orient, que Donald Trump a lui assuré hier que la guerre contre l'Iran allait bientôt se terminer. Alors le président américain n'a pas précisé à quelle échéance, il a même évoqué une possible intensification des opérations, mais le chef de la Maison-Blanche a estimé que l'évolution du conflit était en avance sur le calendrier qu'il avait évoqué auparavant. De leur côté, les gardiens de la révolution lui ont aussitôt rétorqué « C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre, nous sommes prêts à poursuivre les frappes aussi longtemps que nécessaire », a même affirmé ce matin le ministre israélien iranien des affaires étrangères, tout en précisant que des négociations avec les États-Unis ne sont plus à l'ordre du jour. Autant dire qu'il reste encore assez difficile en réalité d'entrevoir une issue rapide à ce conflit, sans compter que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a lui tenu à préciser à son tour qu'il n'en avait pas encore fini, comme une preuve de plus, Alice Froussard, la détermination de l'État hébreu à mener cette guerre jusqu'au bout.
C'est ce qu'a encore répété Benjamin Netanyahu hier soir lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé. Notre aspiration est d'amener le peuple iranien à se libérer du joug de la tyrannie. Il le précise, le résultat dépend aussi du peuple iranien, mais menace à nouveau, nous n'en avons pas encore fini. Pour Israël, la position reste inchangée. Benjamin Netanyahu jure de poursuivre coûte que coûte les attaques contre l'Iran, notamment parce qu'Israël est à portée de missiles. Et puis le premier ministre israélien en est conscient. Pour lui, c'est aussi une manière de refaçonner son héritage politique. Une partie des médias israéliens, d'habitude très critiques à son égard sur le plan politique, sont, depuis le début de cette guerre, souvent euphoriques face aux opérations militaires. C'est donc une manière de prendre sa revanche sur le 7 octobre et de s'assurer de l'unité du peuple israélien autour de sa personne. La chose qu'Israël redoute en tout cas, il est clair, serait un retour à la table des négociations et un nouvel accord sur le nucléaire iranien qui laisserait en place le régime des Mollahs.
Alors, au 11e jour de ce conflit, deux certitudes s'imposent. Depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur frappe contre l'Iran, la guerre a gagné l'ensemble de la région et fait de nombreuses victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et puis, face aux difficultés d'approvisionnement depuis les pays du Golfe, les cours du pétrole ont explosé. Et si dans un premier temps, Donald Trump avait assuré que cette flambée des cours était, je cite, « un petit prix à payer pour la paix et la sécurité mondiale », il a fini par opérer hier soir une volte-face inattendue. Le président américain a annoncé lundi qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix.
Et l'effet a été immédiatement perceptible. Les prix ont reculé ce matin sur les marchés de 10%.
Oui, ces déclarations ont également favorisé un solide rebond des bourses asiatiques. Après leur plongeon de la veille, reste toutefois une question, puisque Donald Trump n'a pas précisé les sanctions ou les pays concernés. En revanche, le secrétaire américain au Trésor a dit, lui, étudier la possibilité d'élargir la levée des sanctions sur le pétrole russe, en dépit donc des efforts des États-Unis de limiter les capacités de Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Un dilemme a priori balayé d'un revers de la main par l'administration américaine, soucieuse d'abord d'éviter une explosion des prix de l'essence avant les élections de mi-mandat. Là-bas, les prix à la pompe ont augmenté de 17% en moyenne depuis le début du conflit, ce qui forcément complique encore la tâche du président Trump face à une opinion déjà très partagée sur cette guerre, comme a pu le constater notre envoyé spécial à Atlanta, Camille Magnat, reportage.
Pas facile d'être un partisan de Donald Trump ces jours-ci quand on fait le plein d'essence. Ben constate l'augmentation des prix, mais il fait mine de ne pas en connaître la cause.
Avec les aléas de l'économie, parfois ça fait monter les prix, ça arrive. Il y a des tensions avec d'autres pays, bien sûr, c'est comme ça. Je vais payer le prix de toute façon.
Ben soutient son président quand il explique que c'est le prix à payer pour se débarrasser de la menace nucléaire iranienne. Pas franchement l'avis de Grégory, le livreur.
I don't agree with it for the simple fact
Je ne suis pas d'accord pour que ce soit à nous de payer les méfaits de Donald Trump. Lui, il prend seul ses décisions, il fait ce qui lui passe par la tête à l'étranger, mais ça a des conséquences sur les Américains. Nous, on va peut-être devoir arrêter les livraisons si l'essence est trop chère.
Mauvaise surprise à la pompe aussi pour l'INSEE, venu remplir le réservoir du break familial.
Normalement, pour le plein, j'en ai pour environ 40 dollars. Et là, c'est 50, donc 10 dollars de plus.
Pour cette mère de famille de la classe moyenne, cette augmentation des prix, c'est le coup de grâce économique. Et elle espère qu'il ouvrira les yeux aux partisans du président.
J'espère que ça va les convaincre que ça ne marche pas. J'ai l'impression que tous les prix augmentent, en particulier les frais médicaux, ceux qui me touchent particulièrement. Et puis de toute façon, je trouve cette guerre injuste, elle aussi.
Comme l'INSEE, avant même la flambée des prix du pétrole, une majorité d'Américains désapprouvait l'intervention militaire en Iran.
Un reportage à Atlanta signé Camille Magnard. Alors, je l'évoquais en début de ce journal, l'espoir d'un soulèvement démocratique en Iran reste encore aujourd'hui assez illusoire. Tout d'abord parce que la nomination du fils Khamenei comme guide suprême démontre la résilience du système théocratique ou quand le régime des mollahs perdure, y compris sous les décombres. Et ensuite parce que si, idéalement, tout nouveau pouvoir devrait émerger de la colère du peuple, aucun candidat, groupe ou mouvement ne peut se targuer aujourd'hui d'être un représentant authentique et légitime du mouvement de contestation populaire qui prévalait avant la guerre. Jusque-là, aucun n'a été en mesure, en l'occurrence, de structurer une direction, ni de s'entendre sur une feuille de route commune avec des mécanismes décisionnels. Autrement dit, on voit mal comment, après la cessation des combats, des masses d'Iraniens réussiraient à descendre à nouveau dans la rue pour s'emparer des institutions étatiques, tandis que les soldats de la, des gardiens de la révolution déposeraient, eux, tranquillement les armes. Alors, dans ces conditions, comment préparer, sinon même envisager le jour d'après, comprenez l'après-régime? Nous allons poser la question à notre invité dans quelques instants. Juste avant, constatons à nouveau sur place combien les Iraniens restent plus que jamais prisonniers entre d'un côté les bombardements israéliens et américains et puis de l'autre la répression orchestrée par le régime. Camille Marego a pu joindre une habitante dans la capitale iranienne.
Jalé a 27 ans, elle vit à Téhéran et décrit les pluies de pétrole tombées sur la ville après les frappes sur plusieurs dépôts ce week-end. Par sécurité, nous avons brouillé sa voix.
Quand nous nous sommes réveillés, tout le monde regardait sa montre et se demandait si c'était le matin ou la nuit. Ma voiture blanche est devenue noire comme du charbon, recouverte de poussière. Le sol, tout est devenu noir.
Quant aux attaques, dit-elle, c'est comme ça, mais oui, c'est effrayant quand ça commence, soudain tout votre corps tremble, raconte Jalé. Son quotidien, ce sont aussi les points de contrôle à tous les coins de rue.
Sur les trajets courts, il y en a 3, voire 4. Vous les voyez avec des gros fusils. Ils ont le visage couvert et vous arrêtent, braquent une lampe dans la voiture. Ils nous ont arrêtés et nous ont demandé si nous avions un ordinateur portable. Nous avons répondu non. Ils nous ont dit de continuer notre route.
Quant à Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, élu nouveau guide suprême ce dimanche.
Les gens sont un peu découragés, pas désespérés, mais ils sont tristes. Ils attendent que lui aussi soit tué.
Même si elle pense que cela n'apportera pas pour autant la paix. Elle espère juste que les infrastructures de son pays seront épargnées et que, dit-elle, les Iraniens puissent mettre en place une démocratie laïque.
Mettre en place une démocratie laïque, est-ce encore possible? Pour en parler avec nous, invité à présent de la rédaction, Tinouche Nazmjou, éditeur, gérant de la librairie Perse en poche à Paris, dans laquelle s'organise depuis 2022 un cycle de débats d'avant la chute. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Voilà plusieurs années que vous travaillez donc depuis la France à faire vivre le débat d'idées en Iran. Vous avez notamment édité la traduction en persan de King Kong Theory de Virginie Despentes. Après la mort de Mahsa Amini et la naissance du mouvement Femmes, Vie, Liberté, vous avez édité des cahiers d'avant la chute, mais aussi mis en place un cycle de rencontres diffusées sur une chaîne Telegram suivie par près de 100 000 personnes en majorité en Iran. Je précise que vous avez par ailleurs co-réalisé un reportage pour Arte intitulé « Iran, témoigner malgré les risques ». Comment, dans le contexte donc de guerre actuelle, est-ce que vous envisagez ce rôle de participation à la vie politique iranienne, alors même qu'on a l'impression, on vient encore de l'entendre, que la population en est réduite aujourd'hui à choisir au fond entre d'un côté consentir à des bombardements de la part des États-Unis et d'Israël, et puis de l'autre subir une répression sanglante du régime?
Disons que pendant ces temps de guerre qui étaient prévus par la population iranienne, c'est-à-dire on savait que de toute façon on finirait par cette situation-là, vu que il faut savoir que la plupart en fait des citoyens iraniens sont des gens qui n'ont pas d'appétence pour la guerre. pour des combats armés. On a toujours essayé, en fait, de s'opposer à ce régime tyrannique par des moyens civils. D'ailleurs, on a en Iran une société civile qui est très importante, qui est très forte. Le résultat, ça a été ce mouvement Femmes, Vie, Liberté qui était extraordinaire. Et donc, on savait que de toute façon, vu qu'on était en face de gens qui sont des idéologues, des jusqu'au boutistes, il n'y aurait pas d'autre moyen qu'une intervention, qu'une aide étrangère pour pouvoir passer en fait cette cape. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience me le montre, c'est que les Iraniens sont des gens justement qui essayent, qui s'entraînent sur la liberté d'expression, sur la démocratie. Il y a beaucoup de forums qui se créent depuis 4 ans, 5 ans, sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a un réseau social qui s'appelle Clubhouse, où justement les gens peuvent aller dans des chambres comme ça, discuter, comme à la radio, faire des débats entre eux. C'est ce qu'on fait également, nous, depuis 2022, effectivement, avec les débats d'avant la chute, où là, en live, en direct, les gens viennent et se confrontent leurs idées, apprennent à s'écouter, apprennent à trouver des solutions ensemble, et ça se répand de plus en plus. Donc, il faut savoir qu'il y a une société civile à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur de l'Iran, et ceux qui sont vraiment à l'intérieur sont ceux qui ont été le plus opprimés, et sont ceux également que vous n'écoutez pas et vous n'entendez pas en ce moment, parce qu'il y a toujours eu la République islamique qui les a mis en prison, qui les a fait taire, et dès qu'il y aura en fait un vent de liberté sur l'Iran, ces gens-là vont pouvoir émerger.
À propos du peuple iranien, on retombe souvent sur un lieu commun qui affirme que la population est beaucoup plus imprégnée d'une culture poétique classique que dans tout autre pays, que ces figures de la littérature servent peut-être plus qu'ailleurs à penser la condition politique des citoyens. Par votre travail, vous qui êtes précisément à l'intersection donc de ces deux cercles littéraires et politiques, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez?
Oui, effectivement. Quand vous parlez avec un Iranien, peu importe en fait son niveau de culture ou son rang social, il vous répondra toujours en citant les poèmes de Hafez, le livre des rois de Ferdowsi. On a effectivement de grandes œuvres en fait littéraires qui sont restées dans cette langue persane, qui parlent de la résistance, qui parlent de quelle manière il faut combattre pour arriver à la liberté, que ce soit la cantique des oiseaux, etc. Donc effectivement, cette population est imprégnée par cette culture, et qui fait que c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être également un élan national en fait à l'intérieur du pays.
Ces derniers mois, un nom, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, semble fédérer de plus en plus de soutien, que ce soit par adhésion sincère ou bien faute d'autres alternatives d'ailleurs, parce qu'il représente la seule figure en mesure de donner un visage à l'après-république islamique. Comment est-ce que vous observez ce ralentissement, ce ralliement autour de sa personne?
Ce qu'a demandé Reza Pahlavi, c'est que l'opposition puisse en fait s'allier et l'accompagner sur ce moment intermédiaire qui va y avoir, c'est-à-dire après la chute du régime de la République islamique jusqu'à l'institution d'élection en fait. Et vu que l'Iran a déjà connu en fait une fois pendant la révolution de 1979, Khomeini qui est venu également avec beaucoup de promesses, il y a beaucoup de gens qui s'interroge, il y a beaucoup de critiques, et moi je trouve ça sain, c'est-à-dire je trouve qu'il faut absolument, tout en pensant qu'il faut effectivement avoir une alliance et qu'il faut se grouper, l'idée de pouvoir critiquer, de pouvoir interroger en fait ce qui va se passer, de demander des comptes, ça montre déjà en fait que le peuple est prêt à une démocratie.
Et on terminera par ces mots. Merci Dimush Namjou d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que votre documentaire Iran, témoigné malgré les risques, est toujours visible sur Arte. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Et pendant ce temps, la guerre se poursuit également au Liban.
Oui, toute la nuit, l'armée israélienne a mené des frappes sur plusieurs localités de l'est et du sud du pays. C'est là d'ailleurs que le 3 mars dernier, des munitions ont explosé, pas n'importe lesquelles. L'organisation Human Rights Watch accuse l'armée israélienne d'avoir utilisé du phosphore fort blanc tiré à l'artillerie au-dessus de plusieurs zones résidentielles. L'ONG indique dans un communiqué avoir vérifié et géolocalisé 8 photos issues des réseaux sociaux montrant l'utilisation donc de telles armes contenant, on le rappelle, des substances particulièrement toxiques. Je vous propose d'écouter Ahmed Benchemsi, il est le porte-parole de Human Rights Watch dans la région.
On dénonce en l'occurrence l'utilisation du fossoir blanc au-dessus de zones civiles, ce qui est clairement interdit puisque le principe cardinal des lois de la guerre, c'est qu'il faut que tout belligérant prenne le maximum de dispositions possibles pour distinguer les civils des militaires. Des civils qui meurent, ça, ce n'est pas acceptable. C'est une violation des lois de la guerre. À la base, le phosphore blanc est utilisé par les armées pour créer ce qu'on appelle l'occultation, c'est-à-dire des écrans de fumée, en gros, pour brouiller la visibilité de l'armée ennemie ou pour le marquage de la signalisation. Mais le problème, c'est que quand ça explose au-dessus de zones d'habitation, ça touche aussi des civils. Or, c'est extrêmement dangereux, le phosphore blanc, parce que au contact de l'humain, le phosphore blanc peut brûler les personnes thermiquement et chimiquement jusqu'à l'os. Je dis bien jusqu'à l'os, parce qu'il est très soluble dans les graisses et donc dans les tissus humains. Des fragments infimes de phosphore blanc peuvent aggraver les blessures, même après le traitement, et peuvent aussi pénétrer dans la circulation sanguine et provoquer une défaillance de plusieurs organes.
Ahmed Benchemsi, donc porte-parole de Human Rights Watch dans la région Moyen-Orient, répondait à Sandrine et toi, Andegue. Emmanuel Macron a ouvert ce matin à Paris le deuxième sommet du nucléaire en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement pour tenter de concrétiser la relance de l'électricité d'origine atomique, le tout à un moment, disons, opportun où quand la guerre au Moyen-Orient vient rappeler la fragilité des économies dépendantes des énergies fossiles.
La transition énergétique, il en était également en question ce matin avec la présentation par Renault de son plan stratégique.
Oui, le groupe automobile compte accélérer dans l'électrique en cessant de vendre des voitures à essence ou au diesel en Europe d'ici 2030. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Plus exactement, le constructeur français a infléchi sa stratégie en élargissant son objectif à Kim aux véhicules hybrides.
Oui Thomas, concrètement, le constructeur prévoit donc de produire 50% d'hybrides et 50% de tout électrique sur le vieux continent d'ici 2030. Un objectif à la baisse par rapport à son ancien plan stratégique, baptisé à l'époque Renault Lution, qui prévoyait lui 100% de voitures toutes électriques à cette échéance. Un infléchissement dans sa stratégie qui s'explique d'une part par un marché qui a toujours du mal à décoller, puisqu'au niveau global, il ne représente que 20% des ventes en Europe, ainsi que par les assouplissements de la Commission européenne qui finalement autorisera la vente des hybrides, en 2035 et non plus que des tout électriques pour les véhicules neufs à cette date. Une décision que regrette Léo Larivière, responsable transition automobile au sein du think tank Transport et Environnement.
Ils incluent les hybrides dans les objectifs et dans les cibles de transition avec des cibles sur le 100% électrique qui ne sont pas si ambitieuses que ça en Europe comme dans le monde. Donc là, le risque, il est clair, hein, c'est de disperser les investissements, de prendre du retard sur la concurrence et au final de se retrouver avec une offre moins compétitive sur l'électrique. Et puis, j'ajoute que c'est pas une très bonne nouvelle non plus pour l'industrie française parce que la tendance du Made in France chez Renault, c'est l'électrique. À l'inverse, une grande partie de la production hybride de Renault, elle sera située à l'étranger puisqu'aujourd'hui, les modèles hybrides de Renault sont produits en Espagne et en Turquie, donc pas en France.
Enfin, actuellement, le groupe Renault vend encore, Thomas, 40% de véhicules thermiques, donc qui fonctionnent qu'à l'essence ou qu'au diesel.
Merci Hakim Kasmi.
L'omerta a assez duré.
C'est ce qu'écrivent dans une lettre ouverte publiée dimanche dernier des artistes professionnels du monde du jazz. Tous dénoncent les violences sexistes et sexuelles dans leur milieu. Après le dépôt d'une plainte, leur communiqué a déjà récolté plus de 300 signatures. Les précisions de Louis-Valentin Lopez.
C'est une procédure judiciaire en cours qui a motivé cette lettre ouverte. Elle vise un musicien bien connu dans le milieu du jazz dont on ignore l'identité. Une procédure pour des faits à caractère sexuel impliquant des mineurs. Louise Knobile est contrebassiste et chanteuse de jazz, invitée ce matin sur France Musique. Elle a signé cette lettre ouverte.
À partir de vraiment ce fait vraiment horrible, on s'est rendu compte en discutant que c'était systémique et en gros la lettre dit on n'en peut plus de cette omerta et des violences systémiques qui gangrènent ce milieu.
Des violences qu'observe également la violoniste et vocaliste Elise Vassalucci.
En tant que musicienne et aussi en tant qu'ancienne élève de différents conservatoires, on a pu être confronté à ces violences-là depuis le tout début de notre carrière, quoi.
Et certaines caractéristiques propres au monde du jazz favorisent l'émergence des violences.
C'est un tout petit milieu et c'est un milieu qui est très masculin.
Pour vous donner un exemple concret, moi j'étais la seule femme de toutes mes promotions quand j'étais aux études. Du coup, le fait qu'on soit si peu, on est plus isolé et forcément ça prend plus de temps avant qu'on se rencontre.
Mais les choses sont en train de changer, selon les musiciennes.
Il y a cette sororité qui est en train de prendre de la place, on se parle de plus en plus. On se connecte plus facilement, notamment grâce aux réseaux sociaux. C'est vraiment le collectif, d'une manière générale, qui fait la force.
La lettre ouverte appelle les structures à adopter une position claire et responsable. Nous souhaitons, écrivent les auteurs, un monde du jazz réellement sûr, inclusif et respectueux, sans craindre l'humiliation, l'abus ou la violence.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi mitigé, couvert sur la plupart des régions avec toujours des pluies persistantes sur la Provence-Alpes, Côte d'Azur et les frontières de l'Est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.